Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Loire Mag, le podcast. Bien manger et de façon locale, c'est notre thème pour ce mois de septembre. La Loire est un territoire riche, un savoir-faire et des produits de qualité. Les circuits courts sont importants et méritent d'être encore plus développés. Nous en parlons aujourd'hui avec Chantal Brosse, vice-présidente du département en charge de l'agriculture. Et puis pour illustrer cette thématique, nous partirons dans un EHPAD. La maison Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Étienne s'efforce de proposer des produits locaux de qualité à ses résidents.
Loire Mag, le dossier.
Circuit court et bien manger, un cercle vertueux donc soutenu par le département de la Loire. Chantal Brosse est vice-présidente au département en charge de l'agriculture. Elle-même, éleveuse à la retraite, elle connaît bien les problématiques des paysans du territoire ligérien. Au micro d'Anne-Marie Vernion, elle revient sur les difficultés de cet été. Elle évoque aussi la mise en œuvre le plus possible des circuits courts dans les collèges et autres EHPAD de la Loire. Une mise en œuvre facilitée par la grande diversité des produits présents dans notre département. Il en sera d'ailleurs question le 2 octobre prochain avec les concours des produits fermiers innovants. On retrouve tout de suite Chantal Brosse et Anne-Marie Vernion.
Parcours gourmand, circuit court, découverte des terroirs, en un mot, bien manger ici, chez nous, dans la Loire. C'est possible parce que nous avons la chance d'avoir un département très riche en produits divers, que ce soit le bétail, la volaille, mais aussi le vin, le fromage. J'en passe et des meilleurs. Bonjour Chantal Brosse.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints ici en studio pour évoquer justement ces parcours gourmands que l'on aura l'occasion de retrouver d'ailleurs à la foire de Saint-Étienne fin septembre et que l'on découvrira aussi, si nécessaire, dans le numéro de septembre, justement septembre-octobre 2022, de Loire Magazine, le magazine du département. Rappelons que vous-même, vous avez une très belle expérience d'agricultrice. Vous aviez une exploitation à Chandieu. Vous aviez quelle spécialité, si on peut dire ?
Nous avions des vaches laitières et puis des vaches allaitantes. Donc voilà, une production uniquement bovine.
Avec le fait que les bêtes puissent être bien, puisque c'est quand même quelque chose aujourd'hui dont les paysans manifestement de plus en plus le souci.
Oui, bien sûr, le bien-être animal, les éleveurs l'appliquent depuis toujours et puis sont, j'allais dire, aux petits soins pour leurs animaux. Jour et nuit, sont là présents en cas de difficulté, voilà, ne serait-ce que pour les vélages. On travaille avec du vivant et voilà, c'est une présence toute l'année.
Alors, le bien-être animal, il a été un peu mis à mal, pas du fait des hommes, mais du fait du climat cet été. Parfois, on voyait, alors pas forcément dans la Loire d'ailleurs, mais enfin, certains troupeaux en plein soleil toute la journée. On a beau se dire qu'ils ont un cuir épais, ça a été difficile quand même cette période.
Oui, cette période a été très chaude et les animaux vraiment recherchaient de l'ombre, particulièrement les animaux laitiers. Même si la porte de la stabule était ouverte, ils restaient à l'intérieur parce que quelquefois il y a des ventilateurs, il y a de la brumisation. Elles se trouvaient mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'où l'importance quand même des arbres et des haies pour ceux qui restent dehors.
Si l'on peut évoquer justement cet été, ça a été bien sûr pour les animaux, mais pour les hommes aussi, et notamment pour les exploitants agricoles, des moments difficiles. Le manque d'eau les a vraiment pénalisés.
Oui, cette année, la chaleur excessive et puis le manque de pluviométrie de ce début d'année a rendu l'année compliquée. Il a fallu pendant tout l'été que les exploitants nourrissent leurs troupeaux avec les stocks qui étaient prévus pour l'hiver. Les agriculteurs de la plaine du Forêt peuvent irriguer et ces jours-ci, il y a pas mal de transports de fourrage de la plaine vers les coteaux. C'est quelque chose d'un petit peu habituel, mais cette année, c'est encore plus parce qu'il va manquer du fourrage l'hiver pour les animaux.
Quelles ont été les possibilités pour les agriculteurs pour trouver de l'eau ?
Bah écoutez, certains ont une possibilité donc avec le canal du Forêt. D'autres ont fait des retenues collinaires.
C'est-à-dire ?
Des retenues collinaires, c'est du stockage de l'eau qui ruisselle, qu'on récupère dans un trou. Une
sorte de puits voilà. Artificiel.
Oui, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas très profond, mais oui. Relativement large.
Et avec des grandes bâches
Bâches ou pas toujours. Bâches ou pas. Ça dépend de la structure du sol. Mais j'allais dire, c'est un petit peu comme tout jardinier qui essaye de garder l'eau de son toit dans une petite citerne pour pouvoir l'utiliser pour son jardin. Voilà. Et donc, c'est ce que les agriculteurs, pour certains, ont déjà pu faire. Et cette année va encore être une année où d'autres vont réfléchir à faire ce stockage de l'eau. Ce stockage de l'eau qui passe l'hiver, parce que toutes les années, on a quand même une pluviométrie importante l'hiver, de l'eau qui ruisselle et qu'on pourrait stocker. Cette année, on va mettre l'accent là-dessus. Certes, la réglementation complique beaucoup les choses, mais on va tout faire pour qu'on puisse plus stocker cette eau de ruissellement. Parce que, par exemple, en France, on n'en stocke que 2% de l'eau de ruissellement, alors qu'on a des pays comme l'Espagne qui en stockent 20%.
Il y a de la marge.
Il y a de la marge, ouais. Même si on sait qu'il faut en laisser pour le milieu. Mais bon, ce taux de ruissellement, elle part dans la Loire et elle retourne dans la mer. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à pouvoir mieux la stocker.
Vous avez évoqué la réglementation. En quoi est-ce que ça peut être gênant par rapport à la récupération de ces taux de ruissellement?
Bien, s'il y a une zone humide, il faut la conserver humide. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un certain nombre d'étapes à franchir et ces étapes, quelquefois, font peur aux agriculteurs. Et même s'il y a un protocole qui a été établi il y a plusieurs années pour franchir les différentes étapes pour monter les dossiers coûtent cher. Et quelquefois, s'il y a un refus de la police de l'eau, l'agriculteur ne peut pas faire son projet. Et voilà, ça leur fait peur, mais je pense qu'il faut qu'on lève à nouveau les freins, qu'on en rediscute, parce que là où il y a un stockage de l'eau, on est sûr qu'à l'avenir, il y aura une exploitation qui va continuer. Et puis, j'allais dire, même pour la faune et même pour les défenses incendies, c'est des stockages qui peuvent être importants.
Tout cela traduit bien aussi une nécessité qui est évidente aujourd'hui, c'est-à-dire l'adaptation des agriculteurs aux nouvelles conditions climatiques.
Oui, l'adaptation pour certains, ça sera donc du stockage de l'eau. Pour d'autres, ça sera une superficie plus importante par rapport au nombre d'animaux qu'ils ont aujourd'hui, puisqu'il y aura moins d'animaux à l'hectare, mais bon, ils auront suffisamment de stock. Et puis, je pense que la politique aussi, c'est d'essayer de faire des stocks les années favorables. Par exemple, l'année dernière, le fourrage a été stocké en quantité assez importante et je pense qu'il faut être précautionneux, avoir un petit peu du stock pour les années comme cette année. Et puis, il faut essayer aussi de trouver d'autres fourrages qui sont pas trop loin pour éviter d'avoir des transports qui font qu'après le prix du fourrage est exorbitant.
Ce qui est un peu en train de se passer en ce moment. En ce moment, il y a du fourrage qui arrive dans la Loire. Je sais pas d'où il vient d'ailleurs.
Je sais qu'il y a une opération qui est faite par la Chambre d'agriculture. Il y a du fourrage qui vient de l'Allier, voilà, principalement. Et puis, il y a des maïs qui étaient prévus dans la plaine pour faire plutôt du maïs grain qui vont être vendus pour les éleveurs pour faire du maïs en silage ou du maïs épi.
Chantal Brosse, je rappelle que vous êtes conseillère départementale, vice-présidente en charge de l'agriculture dans notre département de la Loire. Et si l'on évoque la situation des paysans dans le département, c'est parce que, notamment à la foire de Saint-Étienne, il y aura cette mise en évidence des produits du terroir qui sont très nombreux. J'ai oublié tout à l'heure en les évoquant tout ce qui concerne l'arboriculture et les arbres fruitiers. C'est une chance pour le département et pour du coup les collectivités dans lesquelles le département peut intervenir.
Oui, on a la chance d'avoir un petit peu toutes les productions et que le département se soit dirigé avec beaucoup de ventes directes, puisqu'on a une exploitation sur trois qui font de la vente directe. C'est pour cela que le département, après avoir travaillé avec les collèges pour l'introduction des produits locaux, travaille avec les établissements sociaux et médico-sociaux que sont entre autres les EHPAD pour améliorer donc l'alimentation dans ces établissements. Il y a une mise en relation des producteurs avec ces établissements et puis un état des lieux est fait et ils commencent à tester quelques nouveaux produits qui sont issus d'exploitants agricoles proches de chez eux. Voilà, tout en n'augmentant pas leur budget, parce qu'on sait bien que les budgets sont très compliqués.
Je serais tentée de dire tout est là, parce qu'on peut imaginer que le premier réflexe, c'est peut-être d'aller chercher le produit au plus près. Oui. Reste la question du prix. Est-ce que le département met de l'argent sur la table pour aider justement ces collectivités à aller acheter le produit local?
On les aide plus sur de la technique, donc cet état des lieux, le suivi. On travaille avec la Chambre d'agriculture et puis Agribio, parce que pour nous, le local, c'est très important. Le bio, c'est encore mieux. Et puis, on a la loi Egalim aussi, qui impose un certain pourcentage de produits bio et de produits de qualité. Donc, on les aide aussi à rentrer dans cette démarche qui est imposée par l'État.
Est-ce que ensuite c'est valorisé à l'intérieur des établissements par le département, cette démarche, auprès des utilisateurs, auprès des patients, des personnes âgées, des enfants, des familles?
C'est souvent chaque établissement qui fait de l'animation autour de ces produits locaux. Donc les personnes qui s'occupent de l'animation travaillent aussi avec nous, on peut leur donner des informations et les résidents sont très contents de savoir que c'est des produits qui viennent de 10, 15 kilomètres et puis de connaître aussi les personnes. Quelquefois, il y a des producteurs qui interviennent aussi dans ces établissements pour expliquer ce qu'ils font.
Du 23 septembre au 3 octobre se tiendra la foire de Saint-Étienne pour cette année 2022 au Parc Expo, comme d'habitude, à Saint-Étienne. Le département de la Loire a décidé là encore de mettre l'accent sur les terroirs des différentes intercommunalités.
Oui, on aura une carte du département sur laquelle on aura marqué les différentes productions qui sont liées au terroir. Et chaque intercommunalité mettra en avant un produit. Voilà, par exemple, le bœuf de Charolles dans le nord du département, la rigotte de Condrieu dans le sud avec son fromage. Voilà, fromage de chèvre, la fourme de Montbrison, voilà, la volaille fermière aussi. Puis bien sûr, nos trois vignobles que sont les Côtes Roannaises, les Côtes du Forêt et les vins du Pilat.
Et puis ça se terminera le 3 octobre par un concours important, le concours des produits fermiers innovants. Là, vous allez annoncer les lauréats.
Oui, on va annoncer les lauréats donc le dimanche 2 octobre à la fête de la fourme de Montbrison. On a eu cette année encore une petite vingtaine de produits divers et variés que sont du fromage, de la charcuterie, une tisane cette année. Quelquefois, on a aussi des sirops et puis beaucoup de choses qui sont aussi prévues pour j'allais dire, des moments festifs entre amis, comme des choses à tartiner. Enfin voilà, on a toutes les années beaucoup, beaucoup de produits. Voilà, on va révéler le résultat le 2 octobre.
Eh bien, on compte sur vous pour revenir nous en parler et nous faire saliver, si je peux dire. Chantal Brosse, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nos studios. Et puis donc, bien à la fois, rendez-vous dans ce magazine, Loire Magazine, autour du bien manger et des parcours gourmands dans la Loire. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site rcf.fr dans notre émission Loire Mag, le podcast. Merci.
Merci.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Nous l'avons donc compris, le territoire est riche et le département s'efforce de développer les circuits courts le plus possible. Dans les EHPAD de la Loire, on essaie de plus en plus d'aller s'approvisionner chez des producteurs locaux. Produits laitiers, viande, fruits et légumes, nous avons dans la Loire de bons produits et il faut en profiter. À Saint-Étienne, à l'EHPAD de Saint-Vincent-de-Paul, au pied de la colline de Montaud, développer les circuits courts est une priorité pour la cuisine. Nous rencontrons le directeur de l'établissement, Renaud Bouvard, et le chef cuisinier, Olivier Dufrane.
Quand on parle de cuisine, d'alimentation pour des résidents de cet âge-là, est-ce qu'on doit être d'autant plus attentif à ce qu'on leur donne à manger ?
Oui, bien évidemment. On a devant nous un public dit fragile, à gros risque de dénutrition par rapport à un adulte en pleine force de l'âge. Donc la préoccupation, on l'a bien évidemment tous les jours, de cet aspect qualitatif déjà de cuisine, d'un repas gustatif et nutritionnel, voilà, pour bien respecter l'apport nutritionnel par jour pour nos résidents.
Je me tourne vers le chef du coup pour avoir un petit peu plus d'informations sur ça. Justement, les apports en termes d'aliments, chaque jour c'est réfléchi pour que les repas soient les plus équilibrés possible.
Oui, tous les jours il y a un repas qui soit équilibré, de bien faire attention qu'il y ait toujours un féculent, des légumes, des protéines, des choses comme ça. Pour les personnes plus fragiles qui mangent donc mixé, c'est vrai que c'est tous des repas qui sont enrichis, de façon à ce qui est, comme disait M. Bouvard, qu'on ait un apport nutritionnel assez important.
Oui, il peut y avoir différentes préparations en fonction des résidents et de leurs besoins.
C'est ça, on fait des repas, on essaye de faire en sorte qu'ils mangent le même menu, mais travailler différemment pour telle ou telle personne, en fait.
Vous réfléchissez tous les jours à bien alimenter de façon équilibrée vos résidents. Mais après, la question, c'est de pas s'approvisionner en aliments qui viennent de partout dans le monde. Et vous avez d'ailleurs des démarches là-dessus. Expliquez-nous un petit peu votre démarche d'aller plutôt vers des produits du local ici dans cet établissement.
Cette démarche, on l'a depuis quelques années. On l'a certainement un peu plus depuis 2019, où on a conventionné partenariat avec le département de la Loire, avec la Chambre agriculture de la Loire, l'ARDAB aussi, qui est l'association de développement de l'agriculture biologique, en respectant dans la perspective aussi de la fameuse loi Egalim qui doit imposer à toutes les cuisines collectives des parts de produits dits circuits courts ou de bio. De rentrer dans cette démarche, ça nous a poussé un peu plus loin à réfléchir avec les chefs de cuisine de chacun de nos établissements. Alors on différencie, l'important aussi, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de faire du bio pour du bio. Voilà, le bio, ça veut tout et rien dire. Il est vrai qu'on peut trouver du bio avec des produits qu'on importe et qui viennent de plus de 2000 kilomètres. C'est bien entendu pas l'objectif. L'important, nous, quand on est rentré dans la démarche, on a voulu vraiment, on a fait une étude, un diagnostic sur nos deux établissements. Et puis, on n'a pas voulu partir de tous les côtés. On a voulu se recentrer sur quelques produits importants. Je parlerai de la viande, bien entendu, fruits et légumes. Et puis produits un peu laitiers, fromage. Donc on a voulu se concentrer là-dessus et à partir de là, voir localement, on a privilégié les circuits courts plutôt que le bio pur, localement déjà des productions, des producteurs locaux. Et puis là, je laisserai le chef en dire un peu plus là-dessus.
Déjà, on a été un petit peu aidé aussi par le Conseil général de la Loire qui nous avait déjà donné quelques adresses de certains des fournisseurs, entre autres des adresses pour des producteurs de produits laitiers, des bouchers. Des primeurs aussi également. Donc on les a contactés. Après, on a été devant une difficulté. C'était aussi que nous, comme on est en centre-ville de Saint-Étienne, c'était aussi le fait de, pour les livraisons, c'était pas forcément gagné pour certains des producteurs.
Et en plus, on se trouve au pied de Montaud, donc peut-être au niveau de l'accessibilité, c'est un peu compliqué pour des camions.
C'était exactement ça. Vous voyez, d'ailleurs, au début, j'avais commencé à travailler avec un boucher qui est Monsieur Chazal, une très grande boucherie qui est connue sur Saint-Étienne, et on a dû arrêter au bout de pas tout à fait un an parce qu'ils n'arrivaient pas à nous livrer.
Alors avec les aliments, il se pose souvent une question aussi, c'est le prix. Est-ce qu'en allant vers le local, on ne peut pas avoir des surcoûts parce que de meilleure qualité ?
Si, bien sûr, on a un surcoût. C'est forcément plus cher, hein. Mais on s'y retrouve aussi dans la qualité aussi. On a moins de pertes à la cuisson, des choses comme ça. Donc c'est un avantage. Et puis on sait que nos résidents, ils mangent quand même quelque chose de qualité.
Une des priorités pour nous, c'est de prioriser, oui, c'est cet aspect repas dans toute sa globalité, parce que pour nos résidents, c'est extrêmement important. Le repas, c'est un des derniers plaisirs qui leur reste. C'est l'environnement, c'est de belles salles de restauration, c'est du service à l'assiette. Nous, on a nos cuisines toujours intégrées, nos chefs de cuisine, nos équipes de cuisiniers. C'est des gens qui avaient souvent aussi leur potager, leur production. Et donc non, c'est tout à fait important et on suit ça de près.
Maintenant qu'on a pu découvrir la démarche de cet établissement sur le manger local, on va maintenant partir dans les cuisines de l'établissement avec le chef et on va découvrir les coulisses, comment il prépare ses produits locaux tous les jours. Alors, donc on se trouve dans la cuisine. Présentez-nous déjà un petit peu comment elle se présente, cette cuisine, et comment vous travaillez ici.
Vous avez donc toute la partie cuisson avec le four et là où on fait toutes les préparations chaudes. Juste derrière nous, là, vous avez donc un laboratoire où on fait tout ce qui est préparation froide, donc les desserts et les entrées également. La partie pluche qui est là-bas au fond, donc tout ça, on lave tous nos légumes le matin. La livraison se passe directement par en bas où il y a un ascenseur. On a un ascenseur exclusivement pour la cuisine, où le transporteur donc sonne quand il arrive. La marchandise monte par l'ascenseur. On la dégage directement dans la pièce qui est à côté où sont stockés donc l'épicerie et tous les frigos, les froids positifs et le froid négatif en fait. Donc là, toutes les traçabilités sont faites dès l'arrivée de la livraison et après dispatchées et rangées dans tel et tel frigo.
Alors vous m'aviez dit juste avant que ici vous aviez un repas végétarien par jour et il se trouve qu'aujourd'hui c'est le repas végétarien. Alors présentez-nous le menu du jour, qu'est-ce que vont manger les résidents ce midi?
Voilà, bah aujourd'hui donc on a prévu de faire une pizza, donc c'est une pizza avec sauce tomate, champignons, des olives vertes, olives noires avec de la persillade. Donc il n'y a ni poisson, il n'y a pas de thon, il n'y a pas de jambon, c'est une pizza uniquement végétarienne. Et après on a un menu donc épinards, œufs durs, croûtons. Et un gâteau à la banane qui est fait maison.
Vous parliez tout à l'heure de plusieurs sortes de préparations. On a la pizza, mais pour ceux qui doivent manger mixé, comment est-ce que vous préparez aujourd'hui ce repas ?
Donc aujourd'hui, pour ceux qui peuvent pas manger la pizza, on a fait la pizza mixée. Donc en fait, c'est la base de la pizza, la sauce tomate, qui est mixée avec les olives, tout ce qu'on a mis dedans, et les champignons retravaillés, dans lequel on a enrichi avec des œufs entiers, du lait et de la crème, qu'on a confectionné dans des petites timbales aluminium et repassé au four en cuisson pendant 25 minutes à 130 degrés. Et ça vous fait un petit flan de tomate en fait.
Au niveau du goût, ça ressemble aussi, c'est quasiment pareil.
Au niveau du goût, ils ont toute la base de la pizza, à part la pâte, quoi, mais en fait. Mais sinon, tout le reste qui est sur la pizza, on retrouve l'olive, on retrouve le goût du champignon, du gruyère et de la sauce tomate.
Vous aimez bien, vous, personnellement, dans votre travail, ce petit côté de création et essayer de trouver l'originalité pour s'adapter à tous les résidents ?
Oui, c'est intéressant parce que tous les jours, il faut essayer de réfléchir à savoir comment on va transformer le produit de façon à rester le plus proche du goût naturel, tout en sachant qu'il faut qu'il soit travaillé pour les personnes qui peuvent manger mixé. Ouais.
Il y a tout l'aspect préparation tous les jours du repas et vous avez aussi des moments pour réfléchir à la conception des repas ?
Oui, je m'accorde une journée à peu près tous les 15 jours. Je me mets dans le bureau pour travailler sur les menus, justement, la confection des menus, les recherches de nouvelles recettes. Et là, c'est à ce moment-là, justement, qu'on va réfléchir à comment transformer tel ou tel produit.
Vous parliez de la salle où vous aviez tous les produits. Est-ce qu'on peut aller jeter un coup d'œil pour voir les produits qui viennent d'ici, justement, qui viennent de la Loire ?
Oui, alors la pièce où c'est la pièce de stockage qui se trouve ici, où nous avons donc toute la partie épicerie. Donc la partie épicerie, c'est vrai que ça, c'est pas du local. Et là, après, chaque frigo que nous avons là en froid positif, donc correspondent. Là, ce frigo, donc c'est un frigo, tout ce qui est partie charcuterie et viande. Donc toute notre viande de notre producteur local de Quicondon est stockée ici avec sa traçabilité. Elle est sous forme de poche. Là, nous avons un frigo, donc tout ce qui est BOF, donc produits laitiers, où on retrouve donc tous les produits de la ferme du Haut-Forêt et qui sont à la fois du local et bio. Donc on a quand même du bio par rapport à ça. Et les yaourts de la ferme de Chaptes, qui est également un producteur local. Le reste, bien entendu, pour ce qui est fromage, là, ça vient de RHD Labo, donc une société de restauration qui est sur la Talaudière. Et après, pour un autre frigo donc, où on retrouve tous les fruits et légumes qui viennent de Talofruits, voilà. Ouais, on retrouve donc, à l'heure actuelle, on a encore quelques pêches, mais après, donc, on a les pommes qui viennent du Pilat. Et là, après, donc, c'est des froids positifs. Donc ça, c'est le vin, il vient de l'Ardèche. C'est un vin qui est en bag-in-box qu'on va chercher directement chez notre caviste à la Talaudière.
En termes de quantité, pour se représenter un petit peu, vous avez combien de résidents qui mangent tous les jours ici et qu'est-ce que ça représente en termes de produits ?
80 résidents dans la maison, on va dire. On fait un peu plus de 100 repas à midi avec le personnel tout confondu et on cuisine à peu près pour 82 résidents le soir. Donc en termes de produits, oui, ça correspond. Vous voyez, on est sur un volume en viande, on est sur du 7,5 kg, 8 kg de viande par jour par service, ce qui est très peu finalement. Donc c'est là que ça prouve bien que les résidents mangent peu. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même leur donner de la qualité et pas hésiter à retravailler un produit pour les personnes qui ont du mal à mâcher, les personnes mixées, à bien travailler le produit pour qu'il soit enrichi.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.